Alors, si on peut gloser très longuement sur chacune de ces deux langues, il me semble, et Dieu sait si les linguistes éminents ne s'en sont pas prévus, il me semble plus difficile d'établir des liens qui les assemblent, des éléments qui les séparent. Et pourtant, c'est ce que m'a demandé donc, de vous présenter notre président Yves Le Petit. Alors, plutôt qu'une conférence ex cathedra, j'articulerai mon simple propos à propos de quatre questions auxquelles j'essaierai simplement de répondre, mais que vous pourrez, je l'espère, développer par d'autres questionnements encore tout au long de cet exposé. Alors, première question, c'est existe-t-il une langue médicale? Alors, je réponds tout de suite oui. Et pour s'en convaincre, je prends l'exemple du dictionnaire des termes de médecine que vous avez ici, dont vous avez ici un exemplaire, et qui se définit, alors, plutôt un lexique qu'un dictionnaire, dans le sens linguistique de 1888, ensemble des mots d'une langue, plutôt donc un lexique qu'un dictionnaire. Et ce lexique existe depuis 1900. C'est la date de la première édition. Et il a toujours été le compagnon fidèle des étudiants en médecine, puis ensuite des praticiens, comme le bailli le fut pour les étudiants en grec et le gatio pour celles du latin, lorsque les futurs médecins privilégiaient la philosophie pour leur formation. En 1900, il comportait, ce dictionnaire, 4798 termes. La 31e et dernière édition, parue chez Malouane, date de 2012, et comporte plus de 30 000 entrées. Elle est en ligne, livrée avec un CD-ROM, et plus de 500 illustrations, et comprend en outre un lexique pharmaceutique, étymologique, anglais français, pharmaceutique, etc., et des maladies professionnelles. Donc, à travers cet exemple, vous le voyez, ça c'est un exemplaire de 1980 qui est déjà pas mal de mots en plus. Donc à travers cet exemple, vous voyez, on peut définir la richesse, la complexité et la continuelle évolution des termes de cette vraie langue, langue spécialisée de la science et de la technique, mais un petit peu à part dans les autres sciences, la médecine a vraiment son propre langage. Alors, surtout pas un idiome, un jargon, un sabir, un charabia, dont on a pu trop souvent l'affubler. Alors, Émile Littré disait que le passé de la langue conduit immédiatement l'esprit vers son avenir. Et donc, voyons maintenant quelle est l'origine de cette langue médicale et quand datent ses premiers liens avec le français. Les trois quarts des termes de médecine, ainsi que les sciences qui lui sont intimement rattachées, comme la botanique, l'histoire naturelle ou la chimie, proviennent du grec et du latin, principalement à travers les œuvres d'Hippocrate, d'Aristote, celles des médecins de l'école médicale d'Alexandrie et plus tard de Dioscoride, de Celse ou de Galien au IIe siècle de notre ère. Beaucoup de termes proviennent aussi de l'arabe, comme alcool, sirop, bézoar, etc. N'oublions pas qu'à partir du XIe siècle, la plupart des œuvres citées proviennent à l'Occident grâce à des traductions en latin des manuscrits arabes. Les califes abbassides de Bagdad, notamment Al-Ma'mun, avait fait appel à des médecins grecs dits nestoriens, vivant en Perse, pour traduire d'abord en araméen, la langue du Christ, puis en arabe, les écrits des grands médecins grecs qu'exploiteront Ibn Sina, Avicenne et Razi, Rastrotos. Durant les 1000 ans du Moyen Âge, la langue médicale va intégrer également les termes existants déjà dans le parler populaire, comme bras, jambes, sanglots, glandes, furoncles, nerfs, trocars, lancettes, etc. Dérivés du bas latin, du celte et du parler germanique. Dans la chanson de Roland, du Xe siècle, on aura ainsi une description anatomique des blessures des creux. Dès cette époque, ce sera utilisé pour décrire les diverses pathologies des termes originaux, comme par exemple marque, qui désignera une laide blessure, menoison, une dysenterie, frénésie, un état d'agitation et de folie, le feu sacré ou mal des ardents, l'ergotisme, l'intoxication par l'ergot de seigle, et la labrerie renverra à la lèpre, la peste noire à la peste de 1346, les écrouelles qui sont des ganglions tuberculeux. Quant aux médecins, on l'appelait mège ou mire. Le verbe mégier dérive de médicare qui voulait dire soigner. On disait un mire, on appelle un mire. Alors plus tard, au cours des siècles, bien on fit de même. C'est-à-dire que la contagion fut la peste du XVIe et XVIIe siècle. La grande vérole, ou vérole, la syphilis. La petite vérole désignera la variole. La fièvre pourpre, le typhus. Les fièvres intermittentes, tierces ou quartes, le paludisme. Les hargnes, ce sont les hernies. Les carboncles, les anthrax. L'éléphantiasis, c'est l'œdème géant des membres. Le squire, ou tumeur dure, c'est le cancer. La phtisie, les maladies du poumon avec fièvre lente, avant de devenir, au XIXe siècle, la tuberculose. Enfin, le mal de terre, le scorbut, maladie des marins, au XVIIe et XVIIIe, mais qui au début s'appelait le mal de terre. Les apostumes ou apostèmes, les tumeurs de la peau avec suppuration, etc., etc. Donc, des centaines d'autres, ce qui a toujours rendu difficile, remarquons-le, le travail des historiens de la médecine pour savoir quelles étaient les vraies pathologies dont souffraient nos ancêtres. Alors, à la Renaissance, qui marque un enrichissement considérable de la langue technique médicale, on a même parlé d'explosion terminologique dans la médecine moderne et l'héritière, on va assister à, très intéressant, à une séparation nette entre les corporations de chirurgiens et les médecins. Les médecins issus des universités. Alors les premiers, très tôt, la grande chirurgie de Guy de Chauliac, au XIVe siècle en témoigne, vont utiliser le français. Il en va de même pour l'obstétrique, l'étude des épidémies, les traités de peste, notamment à Toulouse, celui d'Auger Ferrier en 1548, plusieurs fois réimprimé, l'hygiène, sans compter toute une littérature populaire concernant la santé. Parmi ces chirurgiens, donnant une place de choix à Ambroise Paré, 1509-1590, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, qui fut chirurgien des rois de France, Charles IX le sauva lors du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, en le cachant, puisqu'il était protestant réformé, en le cachant dans sa chambre, dans sa propre chambre. Et il renouvela dans sa pratique l'art de la chirurgie. Simple barbier, ignorant donc le latin, ses nombreux écrits furent tous écrits en français. Certains ont voulu voir en Paris le véritable promoteur de la langue française en médecine. A contrario, la médecine, avec l'anatomie, la pathologie, la thérapeutique, restera latine, au moins jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, et au-delà, en Angleterre et en Allemagne. L'opposition aux Français étant surtout le fait, ça c'est important, de l'université, l'Église ayant été beaucoup moins intransigeante, et certains prédicateurs déjà, à la Renaissance, utilisent le français dans leur sermon. Même phénomène dans les livres médicaux publiés entre 1510 et 1520, les trois quarts sont en latin. 100 ans après, c'est l'inverse. La proportion tombe à un quart. Mais, donc vous voyez ce conflit entre latin et français. Mais dans cette invention des mots français, on utilise là encore le matériel gréco-latin, ou bien des mots hybrides forgés à partir des deux. C'est un travail purement linguistique car les concepts bougeaient peu en médecine à l'époque. Quelques exemples, par exemple pour le latin, cécité vient de secus, aveugle, aveuglé. Tibia, par comparaison avec une flûte qui se dit en latin tibia. Maléole, par comparaison avec un maillet, malus. Mélanome de mélania, tache noire de la peau. Cutané, sur la base latine, cutis, qui appartient à la peau. Alors que dermatose reprend la base grecque derma. La rétine, faite pour attraper la lumière, tire son nom naïvement du latin rété, filet. Albus, blanc, a donné albumine. Rubéus, rouge, a donné rubéole, rougeole. Mama a donné mamelle pour les animaux et sein pour la femme. Tandis que gaster s'est détourné de son sens authentique qui désignait le ventre pour désigner l'estomac, gastrique. En grec, même chose pour le grec. Cardiaque remonte au grec cardia, cœur, et non pas au latin, corps tendis. Coma est issu du grec koiné, je dors, et narcose de narqué, qui voulait dire torpeur. La racine réo, je coule, en grec, a donné rhume, rhumatisme, on disait rhumatisme au XVIIe, catarrhe, hémorroïde, hémorragie, diarrhée, dénorragie, au fond tout se coule. Le verbe grec muen, fermé, a donné myosis, fermeture de la pupille, et myopie, sur la vue courte. Les amygdales s'appellent ainsi par comparaison avec des amandes, amygdalées en grec. Voilà, etc. Quelques exemples. Vous voyez la présence quand même constante pendant tout ce siècle du latin, même si on va passer au français. Il y a aussi latin et latin. Latin de Cicéron et latin de Puisine, pour les médecins. Dans son Pantagruel, en 1532, François Rabelais, médecin et latiniste distingué, comme vous le savez, et aussi, on le sait, grand inventeur de la langue française, dans le chapitre 6, comment Pantagruel rencontra un limousin qui contrefaisait le langage français, fustige le faux français établi à partir du faux latin, enseigné par, je cite, les cuistres de Paris, les sorbonnards ergotants, et recommande de parler selon le langage usité et d'éviter les mots épars en pareille diligence que les patrons des navires évitent les rochers de mer. Pour cette merveille de la langue de Rabelais, que connaît bien Jean-Yves Le Petit Pont. Au siècle suivant, dans ce XVIIe siècle, où partout on parlait médecine, dit Madame de Sévigné, et où il était de bon ton de fréquenter les salons de préparation anatomique ou de dissection publique au jardin du roi. La plupart des médecins lisaient et écrivaient un latin érudit qui n'avait rien à voir avec l'affreux galimatia que Molière met dans la bouche de Turgon ou de Diafoirus russe, certes caricatural, mais qui fait croire encore à beaucoup aujourd'hui que tous les médecins du XVIIe en faisaient autant. Le célèbre Guy Patin est là pour nous le prouver, doyen de la faculté de médecine de Paris, très sectaire, mais grand érudit et libertin au sens du XVIIe siècle. Dans ses lettres, écrites à des confrères médecins et bibliophiles comme lui, il utilise le français parfait, mais en latin, pour signaler tous les éléments de médecine. Alors, je vous cite un petit exemple, c'est important. Par exemple, dans sa lettre du docteur Belin au docteur Belin de Troyes, en 1641, parlant d'un confrère, Labrosse, qu'il détestait et qui vient de mourir, il avait la dent dure. Sic impuram vomuit animam impurus, ille nebulo in necandis hominibus exercitatissimus. Ainsi vomit son âme, impur, cet impur charlatan, très habile à tuer les hommes. Lettre au docteur Spon à Lyon, 1653. Donc tout en français, mais dès qu'il parle de médecine, hop, il passe au latin. Pour publier une femme légèrement indisposée, ex intempérie, préfervida viscerum, d'une intempérance des intestins accompagnée de fièvre. Ou même, en 1655, à propos de M. Grassetto, conseiller des requêtes au palais, taillé de la pierre, c'est-à-dire le calcul des reins, le risque, et guéri. Adeo felicitaire, hic acut nos procédi, négociant, tes custotomias, en grec, un mot en grec, ce qui veut dire si heureusement progresse ici chez nous l'affaire de la cystotomie, l'ouverture de la vessie. Plus loin, opération autrefois fort cruelle, non dum taxat propter, impericiam artificum, servitiam propter organorum, quibus ut ebantur ruditatem et inefficaciam. Non exclusivement à cause de l'inhabilité des opérateurs, mais aussi à cause de l'imperfection et de l'inefficacité des instruments dont ils se servaient. Vous avez pour mémoire les lettres de Guy Patin, qui ont, enfin, dont une partie a été éditée à la Pléiade dans le bouquin sur les libertins du XVIIe siècle. Alors, troisième question, où va-t-on rencontrer ces mots, ces termes de médecine au cours des siècles? Alors, bien sûr, vous me direz, eh bien, dans les ouvrages de médecine, c'est-à-dire dictionnaire, encyclopédie, où la matière médicale est classée, présentée par ordre alphabétique. Mais ce qui m'a intéressé, c'est plutôt de retrouver cette langue médicale dans les dictionnaires de langue française célèbres ou curieux. Alors j'ai choisi quelques exemples. D'abord, le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, de 1690, qui contient généralement, alors je vous cite la page de Nugan, contient généralement tous les mots François, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, savoir la philosophie, logique et physique, la médecine, ou anatomie, pathologie, thérapeutique, chirurgie, pharmacopée, chimie, botanique, ou l'histoire naturelle des plantes et celle des animaux, minéraux, métaux, pierreries et les noms des drogues artificielles, et cela continue avec tous les arts. Donc, savez que Furetière, membre de l'Académie française, fut exclu de cette dernière pour avoir distancé de 4 ans la sortie du dictionnaire de l'Académie, première édition, et surtout pour ses idées pionnières en matière scientifique de son époque. Car le dictionnaire de l'Académie a refusé justement de mettre dans son dictionnaire ces termes techniques. Et c'est toujours un régal de consulter les trois in-folios aujourd'hui de Furetière que j'ai la chance de posséder, mais que vous trouvez dans toutes les bibliothèques, et toujours à votre profit dans mes recherches sur l'histoire de la médecine. C'est un dictionnaire incontournable. Deuxièmement, le dictionnaire économique de Noël Chaumel, qui lui, au siècle suivant, est de 1709. La troisième édition, en trois in-folios, est de 1767. Alors, trois grandes rubriques. Économique, ça veut dire gestion. Ce n'est pas de l'économie, c'est la gestion d'un patrimoine, par exemple. D'une ferme. C'est le sens du 17e. OE dans l'eau, économique. Alors, trois grandes rubriques pourraient résumer le contenu. La culture des terres et des jardins et l'élevage des animaux. Les profits et agréments des biens de campagne. La médecine et les sciences, botanique et pharmacie, qui l'accompagnent. Ajoutons vétérinaire dans le soin de toutes les maladies des animaux. Alors, le sous-titre d'ailleurs de l'ouvrage est « Contenant divers moyens d'augmenter et de conserver son bien et même sa santé, dont on sait qu'elle est le bien le plus précieux. La perspective est entièrement pratique, comme dans ces maisons rustiques, des 17e et 18e siècles, où l'hygiène, la diététique, la pharmacopée des simples ont une grande place. Alors vous trouverez, si ça vous intéresse, et à votre disposition, un tiré à part d'une communication que j'avais fait à l'Académie sur ce dictionnaire de Chaumel, où vous pourrez regarder à l'intérieur tout ce qui concerne la médecine, et vous verrez que c'est important, donc c'est à votre disposition. Ensuite, le dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, que vous connaissez tous, 1863-1873. Littré était un excellent clinicien. Il ne lui manquait que sa thèse pour porter le titre de docteur. Il a veillé à la correction des définitions médicales de son dictionnaire, nombreuses, même s'il n'est pas dupe. Dans sa longue préface, il écrit « La langue scientifique, ici médicale, et dans une rénovation et une extension perpétuelle. Car chaque jour, les connaissances positives se modifient et s'amplifient. Nous sommes au 19e siècle. Et plus loin, il m'a semblé qu'il fallait faire un choix, prendre les termes qui ont chance de se rencontrer et d'être de quelque besoin à un homme cultivé, pour le reste, sans remettre au dictionnaire spécifique. Une autre curiosité, c'est le Larousse de Poche de 1912. Alors là, je vous ai amené un exemplaire, et ça c'est une curiosité absolument extraordinaire. J'y tiens beaucoup car c'est le dictionnaire que mon père avait dans les tranchées de la guerre 14-18, car dans les tranchées, vous savez qu'on ne faisait pas que s'entretuer, on travaillait quelquefois, on s'occupait, on faisait des sculptures, à partir de balles, etc., on s'occupait parce qu'il y avait des intervalles. Et donc, lui, il travaillait sur ce dictionnaire. Alors, ce dictionnaire, que j'ai précieusement, qui est en papier bible, on en trouve très peu, c'est Larousse qui l'avait fait, bien sûr, et c'est une curiosité qui contient plus de 85 000 mots qui, outre le vocabulaire complet de la langue française, contient, je cite, les noms scientifiques, physiques, chimie, histoire naturelle, médecine, etc. Donc, une curiosité, mais toujours, qui contient beaucoup de termes médicaux. Enfin, le petit Robert, mais de 67, il y a déjà presque 40 ans, presque 50 ans, pardon, mais toujours efficace. Il contient plus de 30 000 termes techniques ou scientifiques, donc les termes médicaux, y compris ceux de l'anatomie, avec pour chacun l'étymologie, la date d'apparition, l'explication, l'exemple littéraire ou technique. Donc je n'ai jamais vu nécessaire de changer cette édition parce que je la trouve toujours parfaite. Donc, vous le voyez, à toutes les époques, des liens étroits entre langue médicale et langue française. Alors, Quatrième question et dernière question. Qui dit langage dit communication. Mais je me suis demandé s'il n'y avait pas aujourd'hui quelques problèmes justement de communication avec ce langage. Et j'en vois principalement deux. Entre professionnels de santé, c'est-à-dire à l'intérieur du monde médical, entre le médecin et son malade à l'extérieur, pourrait-on dire. Alors, entre médecin et professionnel de santé, pourquoi ça passe pas tellement bien, quelquefois? Bien d'abord, il y a la scientifisation croissante de la médecine à la remorque de l'évolution exponentielle des technologies de biomédecine et d'instrumentalisation du corps humain. Chaque découverte entraînant un langage spécial et donc ne peut connaître souvent que les spécialistes. L'hyperspécialisation actuelle, c'est-à-dire la spécialisation dans la spécialité. Mais être spécialisé, ne l'oubliez jamais, c'est aussi méconnaître des pans entiers de savoir médical. Par exemple, un pédopsychiatre, psychiatre des enfants, ne pourra plus ou difficilement dialoguer avec un chirurgien de la fertilité et encore moins avec un biologiste. Ils ne sont plus sur la même planète. Premièrement, la plaie de la synonymie, c'est-à-dire des mots à la signification identique ou voisine. En 1973, pour prendre un exemple, Manuela, qui était un auteur d'un fameux dictionnaire médical, notait qu'il existait 21 manières différentes de désigner l'hépatite infectieuse. La plaie aussi de l'éponymie, c'est-à-dire la manie des médecins, de donner leur nom à une entité nosologique qu'ils croient avoir isolée et non inventée dans la pathologie humaine. Prenons un seul exemple significatif. Le goitre exophtalmique hyperthyroïdien se dénomme Guel disease dans les pays anglo-saxons en l'honneur de l'interniste irlandais Robert James Frere, alors qu'en Allemagne, cette même maladie s'appelle Basedow-Krankheit, d'après le médecin allemand Karl Adolf von Basedow. En Italie, la même maladie est dénommée Malattia di Flagiano, en hommage au médecin italien Giuseppe Flagiano. En France, pays resté, heureusement, en marge de cette dispute d'appartenance, l'affection porte généralement le nom de maladie de Basedow depuis 1840. C'est un exemple le plus connu, mais il y en a des centaines, voire des milliers d'autres, bien sûr. Alors c'est embêtant parce que, et c'est même grave, parce que ces synonymies et ces éponymies peuvent être, en outre, ignorées d'une ville ou d'un pays à l'autre, ce qui entraîne des confusions de diagnostic. Quatrièmement, les enfants étrangers. Alors, aujourd'hui, la langue anglo-américaine est devenue la langue médicale internationale, tant dans l'oral, colloque, congrès, divers, que dans l'écrit, publication et bibliographie. C'est un fait établi et les combats d'arrière-garde sont totalement inutiles. Personnellement, cela ne m'inquiète pas. Nous avons vu que durant 2 siècles, c'est le latin qui tenait ce rôle de langue internationale, remplacé par le français dans la seconde moitié du 18e et celle du 19e, moitié du 19e. Vers 1900, c'est l'allemand qui envahit le lexique de la psychiatrie et de la psychanalyse, encore peu. Demain, il est probable que le chinois détrônera l'anglais. Le nombre des étudiants apprenant cette langue est en augmentation constante et je pense que cela ne serait tardé, c'est-à-dire dans 50 ans, peut-être avant. Ce qui est plus préoccupant, c'est l'imprécision, voir la confusion que peut introduire cette langue médicale étrangère, reposant bien souvent sur des formations analogiques, métaphoriques ou argotiques, surtout américaines, rendant difficile leur interprétation exacte en français, sans compter leur possible perte de sens initial en changeant de langue, le problème des anglicismes, par exemple, ou des faux amis. Pas négligeable non plus, on l'oublie trop souvent, la question de la prononciation dans les congrès internationaux. Un médecin anglais me faisait remarquer que dans un colloque en français, si le conférencier emploie un mot anglais, les Anglais présents dans la salle ne comprennent pas le syndrome qu'il veut indiquer. Si au contraire, il le prononce avec le véritable accent anglais, les Français le traiteront de ce nom et surtout ne comprendront rien à ce qu'il a voulu dire dans son sujet. Ça paraît ridicule, mais en réalité, c'est souvent le cas. Donc ça pose un petit problème de compréhension dans ce que l'on veut dire. Alors, pour remédier à tous ces risques de confusion, vous le voyez, dans la communication médicale, l'Académie nationale de médecine de Paris a entrepris dans les années 90 la confection d'un dictionnaire de médecine qui compte à ce jour 16 volumes consultables en ligne sur son site depuis 2010. Et donc une nouvelle édition est en cours. Réalisation nécessaire car nombreux, vous l'avez deviné dans mon discours, nombreux sont les mots nouveaux, en particulier en biologie et en oncologie. Si vous avez assisté à la dernière conférence ici même sur le traitement du cancer, vous avez pu vous en rendre compte. Identification des virus nouveaux dans leur dénomination moderne. Par exemple, pour les fièvres hémorragiques africaines, type Ebola, dont on parle tant actuellement, mais qui était connu depuis 50 ans. Nouvelles connaissances scientifiques qui obligent à modifier ou compléter la définition d'un mot. Manipulation, séquençage du génome, par exemple. La création de néologismes, comme l'utilisation de la résonance magnétique nucléaire, de RMN, devenu par l'usage l'IRM, imagerie par résonance magnétique. La suppression de l'anglicisme dont nous avons parlé, comme full time, birth control, breakdown, bonding, spotting, qu'on remplace par plein temps, contrôle de naissance, dépression, bonding c'est le cerclage des artères, spotting c'est les micro-orgies utérines chez la femme, donc il faut se méfier. Donc, toutes ces communications, vous le voyez, rendent nécessaire un peu de clarté dans tout ça. Alors aujourd'hui, il faut savoir aussi que trois entités administratives se préoccupent du souci de maintenir une langue claire, précise et élégante. Il y a la commission du langage médical de l'Académie nationale de médecine, dont je vais vous parler. Il y a la commission de terminologie et de néologie du langage médical, participant de la commission générale de la langue française, sous l'autorité de l'Académie française. Enfin, il y a le comité d'études des termes médico-français, ce dernier issu du comité Clerdir, créé en janvier 1965 sous l'impulsion du regretté professeur Jean-Charles Fournier, qui fut un précurseur en ce domaine. La deuxième partie du manque de communication, et je terminerai par là, c'est le dialogue médecin-malade. Dans la promenade au phare de 1925, Virginia Woolf écrit « Lorsqu'elle tombe amoureuse, n'importe quelle écolière peut faire appel à Shakespeare ou à Keats pour s'exprimer. » Une personne souffrante tente de décrire un mal de tête à son médecin et le langage fut aussitôt détruit. Alors, presque 100 ans après, les choses ont-elles changé? Oui, dans le sens d'une aggravation. Et cela me semble un double paradoxe. De la part du médecin d'abord, il sait, et toute sa formation et son expérience devraient lui avoir enseigné, et chaque média le lui rappelle d'abondance, que si la communication, que son action, pardon, ne sera totalement efficace que si la communication est bien passée entre son interlocuteur et lui. De la part du malade maintenant, car celui-ci est 100 fois plus informé qu'il y a une vingtaine d'années, vulgarisation scientifique dans la plupart des grands journaux ou des sites internet, ce qui devrait lui permettre un dialogue plus facile, à moins que ce soit un faux savoir, un leurre. Et c'est le problème de l'idiome médical face à la communication sociale, à la vulgarisation. Dans l'optique du langage, considérons brièvement ce qui se passe dans cette rencontre. D'une manière générale, et lors d'un premier contact, le patient consulte un médecin pour déterminer pourquoi il se sent souffrant. Il va décrire, au cours de l'interrogatoire, une série de symptômes, je souligne, quelquefois complétés par le discours des proches, que le médecin devra traduire. Dans un deuxième temps, celui de l'examen clinique, ce dernier recherchera un ensemble de signes, c'est la séménologie, qui l'orientera, seconde traduction, vers telle ou telle pathologie ou non-pathologie, et qui pourra compléter, si besoin en est, dans un troisième temps, par des examens complémentaires de la clinique. Or, aujourd'hui, scientifisation, nous en avons parlé, et informatisation croissante de la médecine relèguent à la portion congrue et souvent éliminée cette part essentielle de l'échange, langage, entre le médecin et le patient, l'écoute de ce dernier et l'examen attentif et respectueux de son corps, double langage car le corps parle comme l'esprit. Ne parlons pas alors des dimensions de l'homme malade, handicap et subjectivité, trop souvent oubliées dans la démarche du médecin. Alors que la subjectivité, entre autres, est essentielle, imaginaire, peur, représentation de la maladie, liée à la personnalité, à l'éducation et à la culture, qui ne peuvent s'exprimer que par le langage. Cette absence est d'ailleurs la grande frustration des patients. Comme le disait le psychanalyste Jean Chavreul, les malades et les médecins ont à peine le même vocabulaire, sûrement pas le même langage. Donc vous voyez que dans ces deux exemples de communication, la médecine est confrontée tous les jours à la philosophie et à la morale de son langage, dont il s'agit d'harmoniser les deux fonctions de communication interne et externe. Arrivé au terme de mon propos, et je vais conclure, dans le temps, vous voyez combien finalement langue française et langue médicale présentent des similitudes, et sont même intimement liées. Par leur lente et difficile élaboration, maturation, par leur Marguerite Yourcenar, parlait en 1976 de relais successifs, cas un cas pourri de malentendus, rongés d'omission et incrusté d'ajout. Par leur enrichissement progressif à travers le filtre de la Renaissance, du classicisme et des Lumières, la première avec la littérature et la seconde avec ce que l'on a appelé la première révolution biologique au XVIIe siècle. Par leur confrontation, aujourd'hui comme hier, à des langues étrangères qu'il faudra non pas refuser d'une manière stérile et vouer à l'échec, mais essentiellement adapté et clarifié, et même utilisé, voir le discours lumineux du premier anglais à rentrer à l'Académie française cet été, Michael Edwards, en spécialiste de Racine. L'exemple de la langue d'une science et d'un art, immémorial et planétaire, que sera longtemps encore la Racine,
quelle que soit sa forme, elle devra rester toujours le don et la volonté de soulager la souffrance. Cet exemple illustre bien pour moi notre présent de la langue française et son avenir. N'oublions pas que, comme le rappelait Abdou Diouf au dernier sommet de la francophonie cette année, ce sera son dernier, en 2050, il y aura 750 millions de francophones et que la francophonie, c'est aussi l'humanisme. Je vous remercie.